Résonance sur Radio B. Alain Goudard, bonjour et bienvenue. Résonance, une émission qui donne la parole, accompagne tous ceux et toutes celles qui s'aventurent sur les chemins des pratiques artistiques et de la création. Résonance part sur les routes des régions pour aller à la découverte d'initiatives, de projets culturels et artistiques, pour d'une part mieux en parler et d'autre part confier la parole aux porteurs de ces initiatives. Depuis 2 années maintenant, notre émission et Radio B suivent avec un très grand intérêt la démarche artistique que déploie l'association Itinéraire Singulier, ici même à Dijon, mais également sur l'ensemble du territoire de la région Bourgogne. La présence de Résonance vient également concrétiser le désir d'Itinéraire Singulier et de Résonance Contemporaine de croiser leur chemin, d'associer leurs forces et de partager leur expérience, leur regard, leur réflexion pour aller plus loin ensemble. Alors nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui et de faire partager à nouveau à nos auditeurs cette atmosphère d'ébullition, d'inventivité, de rencontre, de création qu'est cette nouvelle édition du festival Itinéraire Singulier qui se déroule depuis le 9 mars dernier et qui se conclura le 19 avril prochain. Une 9e édition qui bat son plein, une édition qui tente de réunir les forces vives, sociales, sanitaires, associatives et culturelles de la région Bourgogne pour restaurer une pratique publique et un croisement de la parole dans le champ culturel. Écoutez Résonance sur Radio B, le générique de cette émission spéciale enregistrée depuis Dijon. C'est une étude numéro 2 du compositeur Carl Nejelen, interprétée au piano par Eve Risser. Alors, pour évoquer ce qui se passe ici à Itinéraire Singulier, plusieurs invités autour de cette table. J'ai le plaisir d'abord d'accueillir Patricia Aguera, directrice d'Itinéraire Singulier. Bonjour.
Bonjour.
Également aussi Bruno Madelpuech. Alors, encore beaucoup plus heureux de vous rencontrer et surtout de vous remercier de nous avoir permis aussi de pouvoir réaliser cette émission dans le centre hospitalier. Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour à Résonance et aux auditeurs de Radio B.
Merci. Et puis, à mes côtés également, Alain Vasseur, directeur artistique d'Itinéraire Singulier.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Et puis on aura aussi le plaisir, et je suis vraiment très heureux aussi de l'accueillir à ce micro, donc un artiste invité dans ce festival et qui a voilà, une création aussi qui va se dérouler dans les prochains jours avec la présence de Bertrand Binet. Et puis on aura aussi peut-être de la musique en direct grâce à vous. Alors doublement merci et bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Très heureux en tout cas de vous avoir parmi nous et de pouvoir un peu continuer au travers de cette émission qu'on retrouve un petit peu annuellement mais sous des formes différentes, ben voilà, donner l'actualité aussi d'Itinéraire Singulier. Mais peut-être que ce soit aussi pour nos auditeurs et puis peut-être encore pour avoir encore mettre en perspective aussi un petit peu ce qui se passe aujourd'hui à Itinéraire Singulier. On pourrait revenir peut-être un tout petit peu à Alain Vasseur sur l'origine aussi des choses, parce que je disais à l'instant, M. Madelpuech nous accueille ici, mais au départ, c'est déjà aussi au centre hospitalier de la Chartreuse que des choses émergent, se mettent en place et prennent racine.
Oui, alors... Je me rappelais que j'ai un parcours un peu éclectique qui m'a conduit d'un poste de cadre chez Peugeot, parce que je le répète toujours parce que c'est toujours très étonnant. Puis il y a une formation d'infirmier psychiatrique, d'éducateur spécialisé, et puis en fait d'art thérapeute. En fait. Et en 85, donc au centre hospitalier de la Chartreuse de Dijon, avec un collègue ergothérapeute et deux psychologues, nous avons jeté les bases d'un lieu de soins alternatifs, extra-hospitalier, entièrement dédié aux médiations expressives.
C'est ça.
Et ainsi,
c'était assez novateur à l'époque.
Oui, voilà, c'est 85, c'est l'ouverture de cette structure qu'on appelle l'espace des expressions. L'espace des expressions Gaston Bachelard, que je coordonne depuis 86. Alors, très vite, nous avons constaté que la mise en situation d'expression de la personne était primordiale et dans le mieux-être psychique des patients. Et très vite, nous avons également inscrit la structure dans des projets d'ouverture sur la cité, sur le champ culturel, en participant à de nombreux festivals qui cherchaient déjà à donner la parole à des publics marginalisés par leur handicap. Et puis avec l'expérience, nous avons pu constater bien sûr que tout le monde avait quelque chose à dire et que chacun possédait son génie personnel pour le dire, j'aime bien le rappeler, et qu'il suffisait de convoquer deux mots dans un espace-temps donné, à savoir responsabilité et engagement, pour que la personne, même fragilisée par un handicap quelconque, nous offre à voir et entendre ce qui fait sens pour elle, voilà, et ce qui surtout la met en mouvement. Et donc la création d'itinéraires s'appuie donc sur le vécu et la jeunesse de ce lieu spécialisé, qui était un lieu d'échange, qui est toujours un lieu d'échange, de parole, de rencontre et de création, son fonctionnement, un espace intermédiaire, mais surtout sur l'absolue nécessité de favoriser le croisement des publics souvent absents des différents festivals que nous fréquentions et qui cherchaient pourtant à déstigmatiser l'autre vécu comme différent. Et on s'est dit que si l'acte de création est un acte de nécessité, c'est aussi un acte de transmission et une trace que l'on dépose hors de soi. Donc, pour nous, transmettre, c'est être en vie, c'est surtout rester vivant. C'est la base d'itinéraire singulier. Et la base d'itinéraire singulier, c'est effectivement, comme dans ce lieu, de remettre les gens en situation d'expression. Et on s'est dit que ce qui fonctionnait dans le champ sanitaire pourrait fonctionner dans le champ culturel.
Dans le champ culturel.
Voilà. Et donc, logiquement, c'est créé en 99 l'association, enfin le premier édition du festival,
c'est ça.
99, et la création de l'association en 2000.
Voilà.
Mais bien sûr, c'est depuis l'origine, donc c'est le centre hospitalier La Chartreuse et Itinéraire Singulier qui pilote ce beau projet Itinéraire Singulier.
Alors on voit bien faire aussi en sorte que le champ artistique finalement devient un endroit où se redistribuent des rôles, des places, permettent aussi de rendre lisible ce qu'il était moins, où des paroles parfois un peu enfouies leur permettent de pouvoir aussi trouver place sur l'espace public.
Très vite, alors bien sûr très vite on a aussi travaillé avec des artistes qui viennent en résidence dans les centres.
Ça c'est aussi quelque chose de très important dans la démarche.
Absolument, voilà, que les artistes viennent au cœur de l'hôpital. Et dans le cadre des projets culturels hôpital, inscrivent les patients et le personnel dans des dynamiques de projets artistiques. C'est aussi ce qui nous paraît assez important, et on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est aussi que les personnes puissent franchir la porte de l'hôpital, parce que l'hôpital est un espace public, on l'oublie souvent, et les gens n'osent pas rentrer dans les hôpitaux psychiatriques, alors que ce sont des espaces publics, on le rappelle. Et donc c'est cette circulation entre le dedans et le dehors qui était importante à l'espace des expressions Bachelard, qui est toujours, mais qui est important aussi dans la démarche d'itinéraire singulier.
Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir autour de la table, quand vous évoquiez justement résidence d'artistes, présence, non seulement au travers de spectacles qu'ils peuvent proposer, mais d'engagement aussi sur le terrain et de réalisation de projets à différents degrés, mais en tout cas d'implication forte aussi de ces artistes. Alors on a la chance aussi d'avoir Bertrand Binet à nos côtés. Vous êtes présent sur le festival dans cette nouvelle édition avec un projet de création et assez aussi qui met en jeu un certain nombre de patients aussi avec lesquels vous avez travaillé. Comment ça se présente un petit peu ce travail qui a été réalisé pour cette édition?
Alors pour cette édition, c'est un travail un peu spécifique. C'est pas un travail qui est mené avec les résidents. C'est un travail qui est mené en fait avec un collège qui se trouve à Is-sur-Tille. Et là, j'ai travaillé avec un groupe de 6e et un groupe de 5e pour réaliser une petite performance, on va dire, comme ça, à partir de l'écriture de Laurence Vielle, qui est une écriture qu'elle a glanée, en fait, de la bouche de ses enfants. Elle a passé un moment avec eux à parler avec ouais. eux et à faire le travail qu'elle fait toujours, c'est-à-dire qu'elle tape très très vite sur son ordinateur à la vitesse de la parole ce que les gens
disent.
Ce que, voilà. Donc elle a mis ça en forme, elle a fait un texte de 9 pages où ils ont comme ça à l'intérieur des interventions individuelles et des interventions collectives. Et moi j'ai mis ça un petit peu en forme. Lors d'un rassemblement avec eux qui a duré une petite journée, quoi. Et puis ce matin on a mis un petit peu
Je vous remercie parce que je sais que vous êtes entre deux et que.
Oui, parce que là, on doit aller le présenter justement.
Tout à l'heure. Ouais. Donc voilà. Voilà. Peut-être on peut rappeler aussi, et peut-être vous pouvez nous en parler aussi un petit peu plus. Vous faites partie aussi d'une compagnie, la compagnie Carcara, ouais. et qui a aussi toute une démarche. On parlait de la démarche d'itinéraire singulier,
ouais.
mais votre démarche artistique, elle a quand même tout à fait aussi, je dirais, des similitudes sur le fond. Il y a un engagement, il y a un militantisme aussi dans la manière dont vous l'envisagez.
Parce qu'on travaille beaucoup avec des populations qui sont aussi dans des situations particulières. Alors, ça peut être des gens qui sont des gens de la vie de tous les jours, enfin des gens de la cité, on va dire.
Tout à fait.
Mais ça peut être aussi des gens qui sont dans des situations un peu complexes. Là, à l'heure actuelle, ouais. on travaille par exemple avec un APAGE à Beaurepaire, dans l'Isère,
ouais.
sur la création d'un spectacle avec les gens qui font partie de cet organisme, les résidents, quoi. Et voilà, c'est une expérience parmi d'autres. Hein. Et ici, il y a 2 ans, on a fait un gros, gros travail avec, surtout moi, puisque j'étais là présent ouais. sur tout le festival, avec la création de Laurence Vielle, qui était René, qu'est-ce qui te fait vivre, voilà. qui était là, un vrai travail de glanage de parole des gens qui étaient résidents de l'hôpital. Donc on a travaillé en amont, évidemment,
en amont, oui, bien sûr.
Avec ces gens. Et puis on a réalisé un spectacle dans lequel, d'ailleurs, à certains moments, il y a 2 de ces résidents qui viennent participer au spectacle avec une chanteuse et un peintre. Voilà.
Ouais, et ça, moi, je m'en réjouis beaucoup, puisque là, je vais rappeler à nos auditeurs qu'on aura le plaisir de faire découvrir aussi donc qu'est-ce qui te fait vivre
ouais.
le 9 avril prochain
ouais,
à Bourg-en-Bresse, dans le cadre des 7 biches chemin de traverse, donc à l'hôtel Marron de Meillonnat à 19h. Donc, ça, je peux vous encourager, chers auditeurs, à là aussi venir découvrir et entendre et voir aussi tout ce travail. Mais peut-être on évoquait votre présence et en même temps la chance. C'est pas toujours dans cette émission qu'on a la possibilité d'avoir de la musique en direct, mais on pourrait entendre aussi voilà quelque chose de tout frais. Je dirais qui est lié à ce que vous disiez tout à l'heure avec ces enfants, une chanson qui a été faite toute récemment.
Oui, parce que sur ce texte-là, je le fais souvent avec Laurence. Laurence
écrit oui.
très souvent des chansons que je mets en musique. Et là, avec ses enfants, pardon, je suis un peu...
Pas de souci.
Avec ses enfants, là, on a travaillé un petit peu sur une chanson qu'elle a écrite et que j'ai du coup composée, qu'on a travaillé un peu la séance où on s'est rencontrés et qu'on a révisé ce matin. Ça peut me faire un plaisir de vous la chanter.
Avec grand plaisir, voilà. On va laisser quelques instants à Bertrand Binet de s'installer et puis vous allez pouvoir découvrir voilà, un petit peu cette chanson et puis quelque chose qui va donc justement être proposé à découvrir tout à l'heure. À
oui, 14h30. Alors je pense que peut-être que Patricia peut nous parler des actions sur le territoire, parce qu'en fait, notre directrice suit particulièrement toutes les actions qui sont réalisées sur le territoire. Et je crois que c'est important de rappeler que le travail qu'Emilianis Surti sur le collège, le travail se fait aussi avec souvent des publics aussi en difficulté, parce qu'on oublie quand même que dans le milieu rural, il y a aussi des difficultés sociales. Et c'est important pour nous de partir sur le territoire, et notamment au milieu rural. Mais Patricia nous en parlera plus longuement tout à l'heure.
Des cris, on a des tas. Cris de colère, cris de joie, cris d'amour, cris de peur, cris de dégoût, cris de fureur, crinière et crinoline. Cristal et cristalline, cricoté, cricodile, cri-cri ou Jésus-Christ. Tu me cries quoi? Tu cries pourquoi? Tu me cries dessus, tu cries de peur, tu cries de joie. Pourquoi tu cries? Tu cries pour rien.
parce que t'as besoin. Un cri d'amour, un cri d'espoir. Oh, décris-moi. Des cris, y'en a des tas. Cris de victoire, cris de trépas. Cris dans la tête, cris de cauchemar. La crippe, t'as eu la crippe. Cris de choups ou cris sur tille. Cris de chevrette ou cris stipé. Allez, crie-nous ton cri à toi. Tu me cries quoi? Tu cries pourquoi? Tu me cries dessus, tu cries de peur, tu cries de joie. Pourquoi tu cries? Tu cries pour rien. Parce que t'as besoin. Un cri d'amour, un cri d'espoir. Oh, décris-moi. Des cris, y'en a des tas. Cris d'effroi, cris de fierté. Cris d'angoisse, cris de jalousie. Un cri d'amour, toujours l'amour. Crise easy, creeper crunchy. Crise de la quarantaine ou crise de la douzaine. Crie, dis-nous ton cri. Pourquoi tu cries? Tu cries pourquoi? Tu me cries dessus, tu cries de peur, tu cries de joie. Pourquoi tu cries? Tu cries pour rien. Parce que t'as besoin, un cri d'amour, un cri d'espoir. Oh, décris-moi.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous écoutez toujours Résonance sur Radio B, émission spéciale dans le cadre du festival Itinéraire Singulier au centre hospitalier La Chartreuse. Merci beaucoup Bertrand Binet. En tout cas, on va vous laisser rejoindre puisque voilà, dans bientôt quelques minutes, vous allez vous retrouver à nouveau avec ce groupe d'enfants. En tout cas, bonne chance. Merci beaucoup d'avoir pu passer dans cette émission. Et puis de toute façon, à très bientôt, puisque vous serez notre hôte à Bourg-en-Bresse dans quelques jours.
Tout à fait, avec grand plaisir.
Merci beaucoup. Merci. À très bientôt et bonne chance pour tout à l'heure.
Merci beaucoup.
Alors nous poursuivons notre émission et peut-être je vais me tourner vers vous à ce moment-là, monsieur Bruno Madel-Puech. Et puis tout à l'heure, Alain Vasseur nous expliquait un petit peu l'origine, de fait le lien fort aussi qu'il y a déjà au départ avec ici le centre hospitalier. Bien sûr, il y a ce développement dans les années. Et puis, vous êtes arrivé depuis 2-3 ans, peut-être
4.
4 ans, pardon. En tout cas, le temps, vous aussi, j'imagine, un hôpital est toujours une grande machine aussi, si je peux exprimer aussi un peu ça. Mais petit à petit, vous avez aussi, regardé aussi ce qui se passait, senti aussi toute cette démarche qu'il y avait avec Itinéraire Singulier. Et j'irais autant, il y a eu cette première phase initiatrice qui a permis un développement. Aujourd'hui, je peux peut-être essayer d'employer ce terme-là. Il y a une deuxième phase, il y a une deuxième impulsion, peut-être, ou de nouvelles dynamiques qui commencent à s'exprimer. Parce que vous avez senti aussi que de votre place à vous, de par rapport à ce qui se passe, aux enjeux aussi qu'a dépeint Alain Vasseur, et peut-être à vos yeux aussi, à vous aujourd'hui en tant que directeur du centre hospitalier, qu'il y a quelque chose. Alors je dirais, l'établissement, l'institution a permis la naissance, la genèse. Aujourd'hui, elle contribue à ouvrir de nouveaux possibles.
Alors je vais m'autoriser à remonter un peu plus loin que mon arrivée. Je vais me remonter jusqu'à la fin du Moyen-Âge, parce que ce lieu est habité. Et à la fin du Moyen-Âge, c'est vrai que c'était un lieu où un mécène qui s'appelait Philippe Le Hardy, oui, qui a attiré ici des artistes. Donc les plus grands artistes de la fin du Moyen-Âge étaient ici, autour dans ce chantier de la Chartreuse de Chaumol, où il y avait le tombeau de l'Aiguille de Bourgogne. Donc c'est comme ça que Klaus Schlüter, cet immense sculpteur de la fin du Moyen-Âge, pour ceux qui ont la curiosité, on peut ouvrir l'encyclopédie universaliste, vous cherchez à S, à Scudder, et vous verrez des photos de la Chartreuse de Chambol et de la Vierge de Chambol. Donc les grands artistes sont venus ici à la fin du Moyen-Âge, donc il y a une histoire. Il y avait des Tulliers, il y avait des Verriers, il y avait des peintres, il y avait des sculpteurs. Les peintres, il y avait Jean Malouel, aujourd'hui qui fait l'objet de beaucoup de recherches, de la part du musée du Louvre et puis des musées internationaux. Et puis Klaus Sutter a pris le relais donc, de Jean Malouel et puis il a passé le relais à son neveu.
Une aura
artistique. Donc c'est un vivier. Et puis, donc ça, c'est vrai que c'est toute l'histoire du Moyen-Âge, des temps modernes. Et puis un jour, en monarchie de Lille, on était il y a 630 ans, et là, il y a 170 ans, ça a été l'hôpital psychiatrique. Et l'hôpital psychiatrique, donc, ça a été, à un moment donné, une décision des pouvoirs publics de créer dans tous les départements un hôpital psychiatrique. Il s'est construit ici, dans ce lieu, symboliquement. C'est vrai que ce n'était pas un lieu qui avait... Il y avait l'histoire de la Chartreuse. Alors, si on a lu Michel Foucault, on sait que les pouvoirs disciplinaires rejoignaient de l'enfermement, rejoignaient la règle monastique. Il y avait quelque chose de ce genre-là. Mais le lieu lui-même, qui était proche de Louche, on pouvait y avoir des inondations, était un lieu, comme beaucoup d'hôpitaux psychiatriques, un lieu qui n'était pas apprécié des habitants. Et c'est vrai que c'est ce lieu-là qui est aujourd'hui habité. Pendant tout le 19e siècle, les cris des personnes ont retenti dans cet hôpital. Parce que pendant très longtemps, aujourd'hui, on ne sait pas guérir la maladie psychique, mais on sait au moins atténuer les symptômes.
En tout cas, accompagner au mieux possible.
Accompagner au mieux possible, mais pendant très longtemps, on ne savait pas faire. Donc, c'est vrai qu'ici, il y a eu des cris. Je crois que le thème du cri est très fort de ce point de vue-là. Les gens ont crié leur souffrance, ont crié leur douleur. Ils étaient à l'hôpital. Les gens qui s'en occupaient les ont soignés le mieux possible. Et puis, c'est vrai qu'après la guerre, donc après aussi. Pendant la guerre, quelque chose de difficile.
Difficile aussi à vivre.
Pour les malades psychiques. Mmh. D'ailleurs, il y a le président de la République qui a attiré l'attention là-dessus, qui prévoit un monument pour se souvenir de ce qui s'est passé pendant la guerre avec les malades psychiques. Mais après la guerre, il y a eu la découverte des neuroleptiques et ça a changé beaucoup de choses.
Ça a changé beaucoup de choses.
Alors, ça n'a pas guéri la maladie, mais peut-être qu'il y a eu moins de cris, en tout cas les cris des plus intérieurs. Il y a eu autant de souffrance, certainement, mais il y a eu moins.
Peut-être qu'on a commencé à regarder l'individu différemment aussi.
Et on a commencé à regarder l'individu, évidemment. Alors, je ne vais pas retracer ce parcours-là, mais aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on fait, c'est accompagner le parcours de vie des personnes. On sait qu'on n'est plus tout à fait dans la période asilaire, mais on n'en est pas encore totalement sorti. Il y a encore des personnes qui vivent.
Il y a des gros débats d'ailleurs aujourd'hui sur la psychiatrie de secteur. Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'il faut s'en sortir ? Est-ce qu'il faut aller ailleurs ?
Il y a la question de la sécurité qui, chaque fois qu'il y a un fait divers, revient au devant de l'actualité. Mais la sensibilité quand même de tous les soignants qui sont dans cet établissement, des médecins et puis une grande partie des gens, c'est qu'on accompagne aujourd'hui des personnes qui sont... Pour ceux qui ont des maladies chroniques, en situation de handicap psychique, on les accompagne pour avoir la vie la plus citoyenne possible, avec ce grand combat autour de la stigmatisation, parce qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation dans ce domaine-là. Tout le projet avec Itinéraire Singulier trouve aussi ses racines dans tout ça, dans ce cri des soignants qui est de dire, respectons ces personnes, faisons-leur une place dans la société, et puis utilisons leur mode d'expression, parce que qui est de parler, de jouer la comédie, de l'expression artistique, qui est une porte d'entrée extraordinaire.
Donc, cette aventure de 15 ans. Vous le percevez comment, vous, aujourd'hui, justement, et j'entends très fortement... Je ne peux qu'aller, je dirais, de ma place ici aussi de cette émission, mais aussi dans Résonance Contemporaine, où nous cherchons aussi à travailler en ce sens. Comment vous percevez, on sent tous ces chamboulements aujourd'hui, toutes ces tensions à la fois dans le collectif qu'est la société d'aujourd'hui. Vous parliez des stigmatisations, vous parliez aussi de l'aspect sécuritaire que bien souvent on met beaucoup trop en avant par rapport à ça. Je lisais, il y a la revue Esprit a fait tout un ouvrage assez intéressant sur justement le point où en est la psychiatrie, toutes les questions qui traversent aujourd'hui la psychiatrie aujourd'hui en France. On voit que toutes ces questions sont très tendues en ce moment. En tout cas, préoccupe beaucoup l'ensemble des directeurs, l'ensemble de tout le personnel. Et comment vous percevez sans dire que, quand on évoque Itinéraire Singulier, l'art, ce n'est pas la solution en soi, parce qu'elle ne positionne pas tout, mais comment vous sentez un petit peu entre ce mouvement encore délicat aujourd'hui qui a l'air de se manifester au sein de la profession, ces possibilités aussi de redonner la parole différemment, il y a des urgences.
à ce qu'on sent dans les échanges quand on partage beaucoup avec les familles, avec les personnes concernées, avec les professionnels, c'est qu'en fait, il n'y a pas une vérité. Il y a des, voilà, on a des regards singuliers sur les choses. Il y a aussi des visions qui sont pas automatiquement convergentes. Mais ce qu'il faut trouver, c'est un chemin collectif. Et ce chemin collectif, eh bien, il est fait comme tous les chemins. Voilà, ce n'est pas la ligne droite, mais c'est des chemins bien qui vont et qui viennent. Et puis, on s'aperçoit quand même que cette vision qu'on a de la dignité de la personne, cette vision qu'on a d'une personne plus citoyenne, cette vision qu'on a d'une personne moins stigmatisée, eh bien, à travers toutes les expressions artistiques et puis aussi l'évolution des prises en charge en soins, bien, petit à petit, comme ça, sans qu'on s'en rende compte, eh bien, tout ça, ça progresse. Voilà. Même si, quelquefois, l'écume nous donnerait à penser qu'on régresse, mais je pense que voilà, on avance et festival après festival, depuis 15 ans, avec Itinéraire Singulier, il y a cette voix particulière, cette voix des sans-voix, hein, puisque c'est ça le cri, c'est cette voix des sans-voix qui s'exprime à l'occasion d'un moment où il y a de l'écoute, de l'attention, il y a des publics qui viennent habituellement, puis il y a d'autres publics qu'on arrive à toucher aussi. Voilà, et c'est ça qui fait qu'il y a un travail qui se fait dans les conscients, dans les esprits, dans les corps, qui est un travail un peu caché, mais qui porte ses fruits, j'en suis sûr.
Alors, il y a peut-être un axe qu'on peut évoquer en écho par rapport à ce que vient de nous dire Bruno Madelpuech, peut-être alors avec vous, Patricia Guerra, ou au travers de tout ce qu'on vient de dire, à la fois dans la chronologie, dans l'histoire, mais aussi dans cette implication, Alain Vasseur le souligne, un tout petit peu territorial, de maillage aussi, que maintenant a impliqué aussi Itinéraire, et du coup, cette notion un peu de pôle ressources qui nous permettra de venir voir aussi comment, avec le CHS, justement, il y a aussi un travail en commun qui est en train de s'élaborer. Comment les choses s'articulent aussi un petit peu à ce niveau-là?
Moi, je dirais qu'il y a Itinéraire est né dans le monde de l'hôpital psychiatrique, dans la psychiatrie. On voit avec le temps, en fait, nos sociétés, je dis moi aussi, comme Alain souvent, elle fait maltraitance. Oui. Elle fait de maltraitance et on voit, nous, sur les territoires, de plus en plus des gens qui sont fragilisés. Mais quand je parle des gens en général, ça va être des professionnels. Donc, nous, c'est souvent un des premiers médiateurs qu'on va rencontrer. On a des professionnels qui sont dans des structures, sur des territoires isolés. On a des populations isolées. Et on s'est rendu compte que la spécificité qu'on avait au début, cette expérience qu'on a acquise dans un milieu très fermé, aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut cette expérience la redéployer sur, a priori, des territoires qui sont verts et verdoyants, des grandes campagnes. Et dans l'intérieur, on trouve, moi je dis souvent, il y a plein de prisons vertes. Il y a plein de gens en grande fragilité et on voit en fait que notre savoir-faire et notre stratégie, on peut la redéployer maintenant à l'échelle du territoire et on est aussi bien donc dans la ruralité que dans l'urbain, que dans les zones, dans les cités. Après, moi, j'aime rappeler aussi qu'Itinéraire, on n'est pas là que pour travailler entre gens handicapés, entre gens en difficulté. C'est comment, pour nous, notre gros travail, je dis souvent qu'on est des mailleurs ou des tisseurs de liens sociaux, c'est comment on remet en fait les gens en lien, comment simplement on arrive à impulser. Donc je dirais qu'on a aussi déployé depuis tout le début des stratégies à Itinéraire. Maintenant, par exemple, on utilise un thème, là c'était le cri, on a bien compris à travers la chanson de Bertrand. Il y a un thème qui est donné en fait à toutes les structures de la Bourgogne et chacun peut y rentrer là où elle est, avec les publics qu'elle a, à l'y rendre par la pratique qu'elle veut. Et l'idée c'est que chacun peut avoir une place dans un projet et ce projet on veut collectif, on veut solidaire, on veut citoyen. On incite nous les professionnels à ne pas parler à la place des gens qu'ils ont à côté d'eux, mais de leur donner la place et de leur donner la voix. Voilà, donc je dirais. Et un autre clin d'œil, j'aime bien l'idée de centre de ressources. La ressource, c'est du savoir technique. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que notre ressource à Itinéraire, elle est dans l'ordre de l'humain.
De l'humain, oui.
Quand on vient, on vient d'humain à humain, rencontrer d'autres et imaginer et rêver des possibles. Voilà, donc je dirais que c'est une source d'humanité qu'on amène, voilà, tout simplement.
Alors peut-être comme ça nous permettrait d'évoquer ensemble, on vient d'évoquer la notion ressource, je sais que vous êtes en réflexion et en travail aussi communément pour autour de cette notion justement, et que peut-être vous, Bruno Madelpuech, c'est des aspects que vous avez envie justement d'accentuer, de développer, d'envisager en tout cas dans d'autres dimensions, de fait de ce que vient de dire Patricia Aguera, dans cette dimension ressources humaines, dans cette manière de pouvoir mettre en lien de ce savoir-faire aussi qui préexiste depuis si longtemps ici, et qu'en même temps, là aussi, quand Patricia Aguera parle d'ouverture, je dirais en même temps de maillage avec d'autres hors du secteur médical, psychiatrique ou autre, voilà, cette manière de créer l'ouverture avec d'autres, quelle qu'elle soit.
La notion de centre de ressources, c'est une notion qui est beaucoup travaillée dans le champ social, bien sûr, mais dans le champ de la santé mentale aussi. Pourquoi dans le champ de la santé mentale? Parce que dans le champ de la santé mentale, pendant tout un temps, dans la période asilaire, on s'occupait des gens de la vie à la mort, et on faisait tout. Et donc, on n'avait pas automatiquement besoin de travailler avec les autres, puisque on vivait dans des villages, finalement. Voilà, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, qu'on accompagne des personnes pour qu'ils aient vie la plus citoyenne possible, on travaille tous ensemble avec d'autres partenaires du champ médico-social, du champ social. On a tous quelque chose à apporter dans le parcours de vie d'une personne. Mmh. Et l'hôpital prend sa place, mais dans cette logique. Voilà. Et donc la notion de centre de ressources s'impose comme lieu pour coordonner, pour accueillir, pour informer, pour partager les expériences, pour faire qu'à un moment donné, les personnes qui veulent se lancer dans des projets, puissent s'appuyer sur des savoir-faire, qui ont progressé sur le terrain au fil du temps, au fil des années. C'est ça, c'est le savoir-faire d'itinéraire singulier. Et donc, ce savoir-faire d'itinéraire singulier, avec la créativité, avec l'expression artistique, avec la liberté aussi de cette créativité, elle a aussi ses fragilités parce que on est dans une période où l'économique est présent, avec aussi ce curseur de difficulté de pérenniser les financements. Mmh. Le fait de lier une association qui a cette créativité et une institution qui a cette pérennité, puisqu'on peut remonter à l'histoire très très loin, mais finalement c'est une force. Voilà. Et c'est cette force sur laquelle on peut s'appuyer pour pouvoir s'occuper des vulnérabilités, puisqu'on est sur ce champ-là avec les autres partenaires. Et c'est les partenaires finalement qui vont évaluer l'intérêt de ce centre de ressources, puisqu'ils vont l'utiliser tout simplement en venant au bal tout à l'heure, en venant aux formations qui ont été proposées, en venant rencontrer les artistes. Voilà, ils vont nous dire on a besoin de vous parce que nous on veut monter des projets, puis on a besoin de gagner du temps, on a besoin de se rassurer, on a besoin
d'être entendu, d'avoir
des savoir-faire, peut-être des petits coups de pouce aussi qui nous permettront de réaliser des choses que peut-être on se serait épuisé à réaliser pour qu'on puisse réaliser un deuxième projet, qu'après le premier on se dise pas on n'en peut plus parce que c'est trop difficile, alors qu'en s'appuyant sur le centre de ressources on y arrivera. Voilà, donc on sent bien que le centre de ressources au fil du temps s'impose ça devient presque une évidence,
une nécessité,
et que maintenant il faut
ça veut dire que vous avez mutualisé par exemple, j'imagine qu'ici il y a déjà des documentations déjà pour les personnels et autres, que Itinéraire a des choses aussi de son côté. Si on disait juste sur un aspect, une petite, même si les choses ne sont peut-être pas encore aussi précises que ça, mais est-ce que c'est des idées qui pourraient y avoir? C'est-à-dire, c'est mutualiser les sources documentaires que vous avez dans un lieu? Est-ce que c'est un lieu d'exposition qui pourrait être à un moment donné? Est-ce qu'il y a déjà des idées entre les uns et les autres sur comment pourrait-ce concrétiser cette manière de faire et d'associer vos énergies?
Voilà. C'est tout ça. C'est d'abord une façon de travailler ensemble. On pourrait dire qu'une époque, le festival avec le centre hospitalier se préparait en quelques semaines. Et puis, de plus en plus, ça se prépare sur toute une année. Une année de travail. Donc, c'est une gestion de protégés partagée. Avec des équipes au centre hospitalier qui essaient de comprendre ce qui...
Qu'est-ce que c'est que ce projet?
Ce qui va se jouer. Et puis qui, au lieu de dire on a notre quotidien,
on est prisonnier de ce...
Donc au contraire, aujourd'hui, on a envie de participer, ont envie d'apporter leur contribution, et donc vont faciliter les choses, que ce soit sur le plan technique, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les aspects un peu techniques, logistiques, que ce soit sur les lieux qui sont mis à disposition, que ce soit sur du temps qui est aussi facilité pour ceux qui sont soignants, et toutes sortes de moyens, alors beaucoup sur la logistique, sur le matériel, et de manière à ce que le festival après se passe dans les meilleures conditions. Donc c'est de la mutualisation au sens positif du terme, donc chacun met à disposition, comme dans tous les beaux collectifs, ce qu'il porte, ce qu'il a comme... il apporte sa contribution au travail.
En tout cas, c'est un plaisir de vous entendre au poste où vous êtes, d'entendre les propos que vous tenez, parce que... mais ils ne sont pas tous communs. Enfin, c'est-à-dire que la position que vous exprimez aussi clairement et aussi fortement, je dirais, n'est pas commun à tous les directeurs d'hôpital en général, mais entre autres psychiatrique. Donc, je trouve que, en tout cas, connaissant bien sûr déjà depuis quelques années le développement d'itinéraires et de vous entendre aujourd'hui, exprimer très clairement justement votre posture, vos envies et vos souhaits, et on sent bien à travers l'énergie que vous nous faites part à travers vos propos, voilà cette motivation aussi qui vous porte. Je trouve ça assez extrêmement important et réconfortant aussi d'entendre.
Qui est très partagé par les directeurs d'hôpitaux, hein, parce qu'il y a énormément de de travail sur les liens avec les associations du champ culturel dans les hôpitaux psychiatriques. Beaucoup de sensibilité, je pense, de la part des directeurs, qui sont un peu, on est des facilitateurs dans la mesure où on n'est pas nous-mêmes soignants, on n'est pas médecin, donc on n'est pas impliqué dans la prise en charge du soin, donc on a peut-être plus de temps que ceux qui effectivement.
Une mise à distance peut-être.
Voilà,
aussi
une
de
mise
ce
à distance,
passe.
Et donc on peut être des facilitateurs. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de, on est très nombreux à partager cette éthique professionnelle.
Ça me semble important. Facilitateur, passeur, c'est vraiment une dimension qui paraît importante. Et peut-être du côté d'itinéraire, quand on évoque ces croisements avec le CHS, dans cette idée de ressources et dans cette idée de mutualisation, les souhaits ou les perspectives, les envies qui sont au travers de cette notion qui est déjà effective, mais qui peut avoir d'autres développements.
Alors, dans l'année dernière, on a travaillé beaucoup, énormément avec les équipes de la Chartreuse. Mmh. Donc, en fait, tout à l'heure, quand il était posé la question de mutualiser, déjà au niveau du centre de documentation, c'est déjà en cours.
C'est déjà en cours.
Oui. Mmh. Au niveau des formations, donc on s'est associés. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est que, au lieu d'être posé à côté, depuis un an, on a essayé de faire un langage commun. C'est qu'on venait de champs très, très différents.
J'imagine.
Et l'idée, c'était de dire comment on s'entendait, comment on se comprenait, comment on se reconnaissait, comment on réinventait quelque chose qui soit partagé. C'est ce qu'on essaye de faire sur les territoires. Et on s'est dit, de fait, ici, pour nous, c'est un petit peu notre maison mère et notre ancrage très, très fort. Et il y avait cette envie d'être dans vraiment du partage. Pas du semblant de partage,
oui, voilà, c'est ça.
Mais vraiment sur de la co-construction. Donc, on voit aussi qu'il y a un moment, Itinéraire, c'est une association. On a, nous, des modes, une manière de travailler,
des
une temporalité
différente
qui n'est absolument pas la même.
Bien sûr.
Ici, on est dans un très, très gros établissement qui a donc ses fonctionnements. Mmh. Et là, pour nous, on voit qu'on est constamment en train de se frotter et d'admettre que l'autre ne soit pas comme. Et voilà, je trouve que...
Et c'est peut-être ça qui est intéressant. C'est-à-dire, du
totalement.
Coup, ça crée de l'écart, ça crée du entre, ça met en travail, finalement.
Oui.
Ça ne met pas en danger.
Non.
C'est-à-dire, c'est
non.
du coup d'accepter que ça ne met pas en danger ce que nous sommes et là où on en est, mais c'est simplement que ça ouvre une autre manière de poser des regards, et puis surtout peut-être d'inventer, d'explorer, de faire.
Exactement. Je dirais que ça nous pousse à nous... On n'est pas figé dans une posture, on est dans une pratique. Ça nous pousse à être dans une espèce de malléabilité et de prendre en considération l'autre avec ce qu'il est, avec son système. Et je trouve qu'en mettant nous-mêmes ça en pratique, de fait, c'est ce qu'on travaille dans notre quotidien, les individus dans leurs différences. Donc voilà, en fait, c'est un vrai cadeau. Après, M. Madelpoche, il est humble parce que c'est une vraie chance, nous, d'avoir quelqu'un aujourd'hui à la tête de l'établissement qui,
je pense que c'est important.
Oui, qui a une telle conviction parce que il est là et c'est un vrai renfort, c'est une vraie chance en fait pour nous aujourd'hui. Bref.
Est-ce qu'on peut dire aussi, Patricia Aguera, là on parle de cette dynamique et Alain Vasseur, vous pouvez réagir aussi également. On sent cette énergie commune. Comment aussi c'est vécu, parce que c'est un autre monde aussi celui-ci, qui a aussi ses cloisonnements, qui a aussi ses enfermements aussi. Le milieu culturel, il perçoit cette énergie aussi que Itinéraire Singulier, bien sûr, met en œuvre, cette collaboration. Comment ils perçoivent ça? Comment ils réagissent un petit peu à ça? Je pense que ça peut être aussi bien un conservatoire, ça peut être d'autres lieux de culture, ça peut être d'autres compagnies. Comment vous sentez au fur et à mesure, autant j'entends bien tout ce travail de maillage, autant vis-à-vis des institutions réparties sur le territoire. On a entendu avec Bertrand Binet, bien sûr, des artistes engagés dans des démarches et qui viennent s'impliquer très fortement. Mais je dirais, dans cet ancrage aussi local du culturel, avec ses diverses manifestations et ses répartitions sur le territoire, comment du coup ils réagissent aussi, ou comment approchent-ils, ou s'investissent-ils avec vous au fur et à mesure dans le temps, ou ça reste encore un petit peu sur le regard attentif, mais pas plus?
Je crois que très très longtemps, la culture a été dans son univers. On est entre soi, voilà. Itinéraire, donc, à sa naissance, était à la marge.
était déjà on la marge,
était,
absolument.
Voilà, on était dans la marge par rapport aux structures culturelles. Donc, on était la structure qui travaillait avec des fous, avec des personnes handicapées. Ouais. On
ça a arrangé de l'apercevoir comme ça,
ça
aussi.
Voilà. Après, ouais. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des financements dans la culture qui tombent.
Oui, bien sûr.
Parce qu'en fait, on va travailler avec des publics, entre guillemets, dits empêchés. Ou, tout voilà. À fait. Donc, on voit que ces structures qui nous regardaient de loin en disant qu'est-ce qu'ils font, eux, tout doucement, on voit qu'ils viennent à nous. Alors, c'est mon point de vue.
Bien
il
sûr,
est partagé
bien
par
sûr.
Moi-même, voilà. Donc, on voit bien qu'il y avait...
La parole est libre autour de ce micro.
Voilà, et bien, la preuve. Donc, voilà, on voit bien qu'ils nous regardaient un petit peu comme des curieux qui bidouillaient ouais. dans des coins. Et là, ils viennent à nous. On le voit aujourd'hui, en fait. On a des partenariats aussi. Mm-hmm. Ils se rendent compte qu'il y a une nécessité aujourd'hui. On ne peut plus être seul dans son champ. Il y a une nécessité. Et alors, au départ, c'est des raisons économiques. Donc, je dirais, ce n'est pas politiquement correct. C'est bien, des fois, d'avoir moins d'argent. Ça nous oblige à travailler autrement bien et sûr. À travailler avec les autres. Mmh. Mais pas les autres qu'on utilise, mais les autres qu'on rencontre. Avec
qui vraiment, aller à la rencontre de l'autre,
totalement.
Bien sûr.
Et là, ça, c'est magique. Parce que pour moi, la culture, c'est ça. Mmh. C'est un élément qui nous permet d'être à la rencontre et d'être en altérité dans le partage avec les autres. Donc, je dirais, voilà. Donc, on a, nous, de plus en plus de partenaires culturels qui sont aussi, tout doucement, alors, je ne dirais pas que c'est itinéraire qui les a poussés à, mais ça y contribue en tous les cas, qui commence à poser un autre regard sur l'autre. Sur l'autre, avec sa différence, avec sa richesse, à essayer d'imaginer des choses. Après, nous, on le voit globalement sur le territoire de la Bourgogne, puisque oui. c'est notre champ d'intervention. Oui. Il y a beaucoup de structures culturelles aujourd'hui qui sont en très grande difficulté. Donc
c'est
aussi,
certain.
Pour certaines structures itinéraires, on est des privilégiés parce qu'on a un soutien important.
Donc, il y a quelque chose qui s'inverse dans la perception.
Exactement.
Un peu.
Donc, c'est rigolo, voilà. Et, mais étonnant ce qui se produit. On voit qu'il y a des possibles. Qu'il y a des choses qui doivent se réinventer, qui se réinventent.
Il y a aussi peut-être, et c'est peut-être entre autres aussi des. Vous évoquez le refermement du culturel aussi sur lui-même. Ouais. Et puis en même temps, il y a. J'ai bien aimé aussi dans vos propos aussi tout à l'heure, c'est-à-dire laisser la parole aussi à d'autres à qui on ne laissait pas la parole. Ou comment entendre une parole qu'on pouvait estimer d'un certain égard, comment accepter qu'elle puisse prendre sa place aussi dans un espace public avec toute sa diversité. Et puis l'art a ses hiérarchies. L'art a ses... Voilà, on a à certains moments donné certaines personnes qui décident ça c'est de l'art, ça ne l'est pas, mais de quelle place on se situe pour pouvoir... Les frontières aussi sont un peu en train de bouger aussi entre l'art, le non-art, etc. Le fait que du coup on élargisse aussi de manière assez grande l'entrée aussi d'expression de chacun dans ces registres, il y a aussi ça. Si on prend aussi l'art brut de l'autre côté, on voit bien que l'art contemporain aussi essaie de récupérer aussi aujourd'hui ce mouvement, on en fait quelque chose... Si on a tendance à le tirer ailleurs. Alors, on voit bien que, et je garderai peut-être ce mot-là, je vous repasse la parole, monsieur Madel Puech, c'est du coup d'être à la marche, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'on parlait d'écart tout à l'heure, on parlait de entre, mais la marche, finalement, c'est vraiment ça qui devient le moteur. Alors, quelquefois, on en a peur, parce qu'elle emmène dans des choses, peut-être qui semble déstabiliser des fonctionnements. Et puis, à un moment donné, elle offre des possibles. Alors, c'est toute cette... peut-être que c'est ça, le truc, c'est de cultiver la marge.
Oui, cultiver la marge, je ne sais plus. Quelqu'un me disait un jour, il faut qu'on soit des marginaux séquents, c'est ça, voilà, qu'on puisse travailler dans ce champ-là. Mais on recherche l'harmonie, vous l'avez bien senti, à
toute
façon d'exprimer. En même temps, on veut qu'il y ait de vrais échanges et de vrais débats. Pour citer quelques exemples d'échanges et de débats qu'on a pu avoir entre institutions et qui sont des débats encore vivants. Par exemple, on est en train actuellement d'aménager un espace pour faire un lieu d'exposition au sein du centre hospitalier. Ben, c'est vrai qu'on a de vrais débats pour savoir si c'est un lieu qui va être consacré aux arts singuliers, avec une âme peut-être qui ressemblera à l'histoire d'itinéraire, ou est-ce que ça va être un lieu un peu différent où on va alterner des choses qui sont plus identitaires par rapport à l'établissement et aussi le lien avec l'association, et puis peut-être d'autres artistes qui sont un peu plus éloignés de nous et qui viendront faire des expositions. Voilà, on a ce type de débat. Comme on a eu ce type de débat, par exemple, sur l'année dernière, enfin il y a 2 ans, au niveau du festival, il y a eu un peu d'évaluation à la sortie, donc on leur a demandé de s'exprimer. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit... Ben, le monde de la folie, c'est un monde qui n'est pas si facile que ça à appréhender. Donc, ils ont dit, ben, c'est vrai que vos spectacles, par moments, c'est un peu noir, c'est un peu difficile. C'est un peu, bon, et pourquoi vous ne faites pas aussi des choses un petit peu plus...
Voilà.
Bon, ben, on a eu ces débats. Est-ce que ça fait... Est-ce qu'il faut le faire ou pas, et pas le faire. Et c'est vrai que ces débats-là, L'association les a en son sein, donc c'est pas, voilà, elle a les vivre, elle a les maîtriser aussi, ces débats, parce que dans une association, on sait que c'est pas si facile, hein, les débats qui peuvent créer des clivages. Puis elle a aussi à les porter dans le dialogue avec les institutions. Et c'est finalement le fait que ces débats-là, on ne cherche pas automatiquement à avoir une réponse toute faite. Bon, à un moment donné, on prend le meilleur équilibre possible, et puis on continue à progresser avec ces débats. Et c'est ces débats qui nourrissent en fait la dynamique aussi de créativité.
Alain Vasseur, le débat,
Pour rejoindre,
ça paraît essentiel.
Non, l'idée de la marge, je la vois comme un espace intermédiaire, la marge entre la norme et l'exclusion. Mmh. C'est-à-dire que c'est un lieu de rencontre où les normes pas, c'est-à-dire nous tous, sommes invités à faire un pas en avant pour aller découvrir ce qui se passe là dans la marge. Et puis les gens qui sont en situation d'exclusion, en dehors du cadre, fassent aussi un pas en avant pour revenir dans cet espace-là. Donc chacun est invité à abandonner quelque chose pour partir à l'encontre de l'autre. Mmh. Et ça me paraît évident. Et du coup, la marge pourrait être le centre.
Mmh, c'est
du
ça.
Du coup, devient le centre. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, parce que chacun, effectivement, va être invité à abandonner quelque chose pour partir à l'encontre de l'autre. Et puis j'aime bien imaginer le mot art dans le sens, l'entendre au sens d'articulation, art au sens d'articulation entre ce qui est et ce qui peut être, mais aussi articulation entre les différents champs, le champ social, le champ sanitaire, le champ culturel, le médico-social. Donc cette notion d'articulation me paraît... cœur.
Oui, on est moins sur un art académique rivé dans sa manière de faire, comme il y a eu des époques à un moment donné, mais plutôt dans un art qui, lui, est complètement empreint de la vie, des réalités quotidiennes.
Et se nourrit de l'altérité, bien sûr. Ça, ça me paraît primordial, et l'on voit aujourd'hui que c'est un élément important dans la création artistique.
Peut-être pour justement faire écho à... On vient de parler d'artistique et donc du coup d'entendre un petit extrait aussi d'une compagnie présente dans le festival, Tomasenko.
Tomasenko est une compagnie qui est actuellement en résidence à l'Athénéum. Alors, encore une fois, l'occasion de parler de...
C'est l'occasion de partenariat avec un lieu culturel.
À l'Athénéum, actuellement, il y a des patients de l'hôpital, donc une douzaine de patients qui croient avec un atelier avec des étudiants.
Oui.
Et c'est une résidence qui a lieu toute la journée, demain matin et demain soir, en amont du spectacle de Tomasenko. Il y aura une restitution de ce travail d'atelier. Et voilà, parce que les artistes qui viennent pas simplement déposer quelque chose ou créer quelque chose professionnel, mais aussi ils sont acteurs et ils sont sur le terrain également pour animer des ateliers. Et tous les artistes qui viennent proposent cette alternative-là.
Alors on écoute Tomasenko.
Mop, 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 mop
Vous écoutez Résonance sur Radio B, émission spéciale, dans le cadre du festival Itinéraire Singulier au centre hospitalier La Chartreuse à Dijon. Et donc, c'était la compagnie Tomasenko que nous venons d'entendre. Et c'est vrai que ce qu'on vient d'entendre donne plus qu'envie d'aller en entendre plus et de découvrir aussi un petit peu cela. Alors, je ne sais pas, entre Alain Vasseur et Patricia Aguera, on ne peut pas tout signaler ce qui se passe aujourd'hui, parce que le festival est sur plus d'un mois, mais peut-être on peut citer peut-être quelques grands rendez-vous, moments importants qui sont importants à signaler ou à...
Alors, chaque week-end, nos balles montées. Donc, le bal monté, c'est un petit théâtre de poche qu'on a installé au cœur de l'hôpital de la Chartreuse. Donc, chaque week-end, le 4 et le 5, le 11 et le 12, on a une programmation spécifique. Ça commence à 14h30. Et l'idée, 14h30, ça peut s'ouvrir dans le bal. Après, on peut avoir un concert à la cafétéria des patients. Après, on peut être à la salle des fêtes. L'idée, c'est que pendant deux jours, on a en fait la Chartreuse qui va vibrer.
Un moment festif qui vibre.
Au chant, aux paroles, à la danse. On a une diversité en fait de pratiques. Et puis le dernier week-end, ici, on a une grosse kermesse. Et puis cette kermesse, elle est liée à l'histoire aussi de l'hôpital. Autrefois, il y avait une kermesse. Et là, ça nous intéressait à recréer une kermesse qui soit solidaire et citoyenne, qui soit ouverte à tous. Donc on va retrouver un ensemble d'associations, on va retrouver des moments festifs, on va retrouver aussi des spectacles. On va avoir des formes comme ça. Donc c'était pour tous. Pour tous les âges, pour tout le monde, venez faire la fête ici. Et cette kermesse-là, on l'a co-construite aussi avec une association qui est de l'autre côté des murs de l'hôpital psychiatrique, qui est le réseau Fêtard. Donc l'idée, c'était que la kermesse va être ici dans les murs, mais elle va dégouliner aussi du côté rue de Rennes. Et les choses vont basculer de l'un à l'autre. On a des batacuda, on a des danses, on a des conteurs. Et l'idée, c'est que tout d'un coup, il n'y a plus de murs, il y a juste des gens ensemble et qui sont là pour faire la fête. Donc ça, en gros, c'est sur la Chartreuse et sur le bal. Et après, on a des partenariats avec des salles et des gros spectacles aussi.
Que c'est le clôture, c'est aussi une fête, puisqu'on fêtera les... monsieur le directeur, les...
Les 170 ans.
Voilà.
En fait, les 630 ans de la Chartreuse, les 170 ans de l'hôpital et les 15 ans d'itinéraire singulier.
Les 15 ans d'itinéraire singulier.
C'est un très bel anniversaire, anniversaires, en tout cas.
On mutualise cet anniversaire.
Non, mais en tout cas, quand on... Toute l'historique que vous rappeliez tout à l'heure, monsieur Madel Puech, fait aussi de se dire, il s'est passé toute cette vie artistique, finalement, dans ce lieu. Et aujourd'hui, cette présence, en tout cas, génère à sa manière, mais aussi un continuum artistique. Et ouvert à tous, même avec des gens qu'on mettait un peu marginalement, peut-être à certains côtés. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez fort, de sentir qu'un espace comme celui-ci, aujourd'hui, il est encore porteur de toute cette énergie que d'autres ont déposée, ont manifestée sous des formes les plus différentes possibles.
profondément humain, effectivement, de, que les liens entre les hommes soient les liens d'aujourd'hui, mais aussi les liens d'hier, voilà, et puis voilà. Les liens de demain, donc ça c'est important.
Ça, ça me paraît important dans la chaîne dans laquelle on s'inscrit finalement. Donc voilà, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Je remercie vivement toute l'équipe d'Itinéraire Singulier et vous tout particulièrement, monsieur Vadel Puech, de nous avoir permis de réaliser cette émission ici, à la Chartreuse, à Dijon. En tout cas, c'est un plaisir à chaque fois de venir à la rencontre d'Itinéraire et d'être présent. En tout cas, on ne manquerait pas ce moment, et j'espère pour nos auditeurs aussi. Aujourd'hui, j'étais accompagné à la technique et à la réalisation de Simon Deborne. La présente émission a été enregistrée le 31 mars dernier. Elle sera rediffusée jeudi prochain de 18h à 19h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, pour écouter Radio B en direct ou en différé, podcaster et connaître la grille des programmes. Vous pouvez vous rendre sur www.tropicfm.fr. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus aussi sur Itinéraire Singulier et de savoir où en est le festival, vous pouvez vous rendre également sur www.itinéraire-singulier.com et sur la page Facebook, bien sûr. Donc voilà, vous avez un peu toutes ces informations. Nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour votre confiance et votre curiosité, et que cette journée vous soit belle et douce.